Père Nicolas Sautreau, bonsoir, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Ravi de retrouver notre ami Jean Danielou, cardinal de la Sainte Église romaine. Et ce soir, de le retrouver particulièrement en tant qu'amoureux de la liturgie catholique romaine. Il a donné lui aussi une place centrale à la liturgie dans sa vie, bon, la liturgie célébrée, et dans son œuvre, comme dans sa spiritualité. Et ce soir, je voudrais redire merci au cardinal Danielou de nous aider tellement pendant ce temps de l'Avent. Parce que peut-être que vous aussi, vous êtes étonné régulièrement que le temps de l'Avent nous parle tellement de la fin des temps, du jour de Dieu, de l'eschatologie, du jugement dernier, de la venue ultime du Rédempteur pour récapituler toutes choses et faire entrer la création dans l'éternité de Dieu, alors que le temps de l'Avent est une préparation à la naissance du Seigneur Jésus, à cet avènement du Verbe dans la chair. Bien, en nous ayant expliqué d'une façon absolument limpide la semaine dernière que le Seigneur Jésus est en même temps le Messie attendu et le Dieu advenu, qu'il est en même temps l'envoyé de Dieu et Dieu en personne qui vient mettre un terme à l'histoire pour la faire entrer dans son éternité, en nous expliquant cela d'une façon tellement claire, il nous a aidés à savourer ces entre-là de la liturgie catholique romaine que nous vivons pendant le temps de l'Avent, entre la venue dans la chair de la seconde personne de la Trinité et la fin des temps, le jugement dernier. Le Messie est celui qui permet la présence absolue de Dieu dans notre monde. Et voilà pourquoi, lorsque nous méditons sur ces textes de la liturgie, y compris les prières de la liturgie, pas seulement les textes bibliques, mais toutes les prières qui ont été forgées à travers les siècles, nous sommes invités à comprendre d'une manière renouvelée que la venue du Christ est simultanément une venue dans l'humilité et dans la gloire. Et que c'est parce que il est le glorieux en même temps que le plus humble de tous qu'il nous sauve et qu'il nous donne le chemin du salut. La semaine dernière, nous avons davantage médité sur l'aspect Messie, la venue du Messie. Il est le Messie attendu. Aujourd'hui, nous pouvons nous pencher plus précisément sur ce qui relève de la visite de Dieu, de la parousie de Dieu, de la manifestation totale et définitive de Dieu. Et comment c'est Dieu en personne qui vient sur terre. C'est à cette visite de Dieu que fait référence finalement l'ensemble des paroles de l'archange Gabriel à la Sainte Vierge Marie, puisque nous sommes toujours dans la méditation de l'annonce faite à Marie. Lorsque l'ange dit « Réjouis-toi, réjouissez-vous » ou « Je vous salue, Marie », nous comprenons bien qu'il s'agit d'une joie très forte devant la venue de l'Éternel en personne. Qu'est-ce qui peut réjouir le plus la Vierge Marie? C'est la présence de Dieu, la présence plénière, totale, absolue de Dieu, ce que nous appelons la venue de Dieu, la venue de l'Éternel. Eh bien, cette venue est clairement affirmée avec une expression très précise, lorsque l'évangile selon saint Luc, là au verset 25, nous dit « L'Esprit Saint viendra sur la Vierge Marie et la vertu du Très-Haut couvrira de son ombre la Vierge Marie. » L'Esprit Saint est la puissance du Très-Haut. C'est l'annonce de l'effusion par le Père de l'Esprit Saint en personne, par lequel le Père éternel va opérer le renouvellement de toute la création. Et là, nous retrouvons le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe lui-même, qui est tellement essentiel dans toute la liturgie du temps de l'Avent. Non seulement dans les lectures de la messe, mais dans les lectures de la nuit, dans les lectures de l'office des matines, de l'office des lectures. C'est une méditation de presque l'ensemble des livres d'Isaïe, puisque on a voulu repérer plusieurs livres dans le livre du prophète Isaïe dans notre Ancien Testament. Oui, Isaïe est d'une manière très particulière celui qui nous annonce cette effusion de l'Esprit-Saint pour renouveler toute la création, pour que la création déchue et aliénée par le péché soit restaurée. Il fallait que l'Esprit-Saint soit donné. Eh bien, cet Esprit-Saint, tellement présent dans le récit de l'annonce faite à Marie, cet Esprit-Saint, c'est l'Esprit créateur. Le générique de notre émission, c'est le Veni Sancte Spiritus, mais il y a aussi la prière du Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit créateur. L'Esprit-Saint est créateur comme le Père est créateur, comme le Verbe est créateur de toutes choses. Et le livre de la Genèse, au tout début, chapitre 1, verset 2, nous dit bien que c'est l'Esprit-Saint qui, en planant au-dessus de ce qu'on appelle les eaux informes, de ce qui n'existe pas encore en tant que création, c'est l'Esprit-Saint qui, en planant, en étendant ses ailes au-dessus du rien, si nous voulons, fait surgir la première création. Celui qui est créateur de la première création, tout le livre d'Isaïe nous affirme qu'il sera créateur de la nouvelle création. Voilà pourquoi il faut que l'Esprit-Saint vienne sur la Vierge Marie pour opérer cette nouvelle création. Quant à la vertu du Très-Haut, la puissance du Très-Haut, c'est la puissance irrésistible de Dieu. Voilà, ce qu'on appelle aussi la colère de Dieu, c'est la puissance irrésistible de Dieu qui toujours est victorieuse du mal, du péché, des ténèbres et de la mort. La victoire même de Dieu. Cette vertu du Très-Haut est donc cette puissance irrésistible par laquelle Dieu, à la fin des temps, à la consommation des siècles, à ce qu'on appelle le jugement dernier, finira par détruire tous ses ennemis et réalisera de façon irrévocable son projet sur toute la création, sur l'humanité en particulier. C'est pour ça que le mot « vertu du Très-Haut » est utilisé pour nous offrir une référence à la consommation des siècles, à la victoire totale, définitive de Dieu lui-même. Mais ce dont parle notre évangile, ce n'est pas une venue de Dieu générale, en toutes choses, partout. L'action de l'Esprit-Saint, l'action de la puissance du Très-Haut, concerne directement la Vierge Marie. La nouvelle création va commencer par une personne en particulier, et il s'agit de la Vierge Marie. C'est sur la Vierge Marie elle-même que vient l'Esprit-Saint. C'est sur elle que Dieu décide d'étendre son ombre de Très-Haut et de Tout-Puissant. La parole de l'ange répond à la question de la Vierge Marie au sujet de son propre vœu de virginité. La parole de l'ange signifie que l'action créatrice de Dieu annoncée par les prophètes et qui est en train de s'accomplir, toute la merveille est là, c'est que ce qui a été annoncé pendant tant de siècles C'est à l'instant même de l'annonciation que cela s'accomplit. Nous sommes invités, en méditant de tout notre cœur, sous la motion de l'Esprit-Saint, cette page de l'Évangile, nous sommes invités à contempler l'accomplissement, l'instant même où tout se fait. Eh bien, cette action est d'abord et avant tout une genèse. Une genèse comme, on pourrait dire, toute genèse d'un enfant. Le mot genèse, qui a donné la génétique, qui est l'engendrement, qui est l'étude de ce qu'est la source de l'engendrement, le mot genèse est là pour nous parler de l'arrivée de l'enfant, du fait que là où il n'y avait pas d'enfant, un enfant commence à être. Mais cet enfant, qui est l'objet de la genèse accomplie par l'Esprit-Saint, nous devons comprendre qu'il s'agit du nouvel Adam. Le commencement de la nouvelle création, c'est la genèse du nouvel Adam. Et voilà ce que le texte de Saint Luc nous offre à contempler et à méditer. Le Seigneur Jésus est vraiment le commencement d'une création nouvelle. Et avant la genèse du Seigneur Jésus, il ne s'était rien passé de nouveau depuis la création du monde. Vous savez, les paroles désabusées du Siracide, qui dit « rien de neuf sous le soleil », sont là pour nous faire comprendre que, oui, rien de neuf, les choses ne cessent de se ressembler jour après jour, sauf le jour de la genèse du Seigneur Jésus. Le jour où le monde est totalement transformé, totalement renouvelé, parce que il y a un nouveau commencement absolu avec l'entrée de Dieu dans le monde qu'il a créé, avec l'accomplissement de toutes les promesses. Couvrir de son ombre. Nous pouvons suivre le cardinal Danielou dans la proposition d'explication qu'il nous offre pour cette expression. Voilà. Il te couvrira de son ombre, Vierge Marie. Voilà. La puissance invincible de Dieu va te couvrir de son ombre. C'est l'Ancien Testament qui nous permet de goûter au maximum le Nouveau Testament, et nous comprenons que nous sommes face à une expression très rare dans tout l'Ancien Testament, couvrir de son ombre, et qu'il faut remonter au livre de l'Exode, au chapitre 40, le verset 34, pour avoir un équivalent précis, exact, de cette expression. Couvrir de son ombre, c'est la nuée qui est le signe sensible de la présence même de Dieu dans la tente itinérante du désert. On a une utilisation de cette expression dans le récit de la Transfiguration, où Saint Luc utilise la même méthode de reprendre une expression très rare de l'Ancien Testament pour nous signifier la présence de Dieu en Jésus. À la Transfiguration, il y a un dévoilement unique du mystère de la présence même de l'Éternel dans l'humanité du Seigneur Jésus. Et ceux qui ont vu la Transfiguration du Christ vont être capables de parler d'une façon exceptionnelle de la divinité du Seigneur Jésus. Il est vraiment Dieu. Il est vraiment la seconde personne de la Sainte Trinité. Il est plus que la présence de Dieu, il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est présence de Dieu. C'est très certainement dans ce sens-là qu'il faut affirmer les choses. Parce qu'il est Dieu, il est présence de Dieu. Dans le texte que nous sommes en train de méditer, cette belle expression a le sens de signifier la présence de Dieu dans l'enfant qui est en train de naître dans la Vierge Marie et qui un jour naîtra du sein de la Vierge Marie. Présence de Dieu. Pas seulement Messie attendu, mais Dieu véritablement advenu. De nombreux textes de l'Évangile montrent ce qu'est le tabernacle dans l'Ancien Testament, le lieu de la présence de Dieu. Eh bien, désormais, c'est l'humanité du Seigneur Jésus qui devient le lieu de la présence de Dieu. Les temps sont accomplis et la présence même de Dieu n'est plus à chercher ailleurs que dans le Seigneur Jésus. Même dans l'humanité du Seigneur Jésus. D'une façon incomparable, Saint Jean l'exprimera dans son prologue, « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous. Le Verbe s'est fait chair, il est devenu le tabernacle de la présence de l'Éternel au milieu de nous. Voilà ce qu'affirme l'expression choisie avec beaucoup de précision par Saint Luc, que la Vierge Marie est couverte par l'ombre du Très-Haut. Cette expression veut vraiment nous faire saisir que c'est la chair, c'est l'humanité de Jésus qui est le lieu de l'habitation du Verbe de Dieu. Et c'est bien le sens de notre adoration de Noël, notre adoration de la nuit de Noël, c'est cette présence du Verbe dans l'humanité du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi et à quel point le Seigneur Jésus peut dire « Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours ». Voyons le lien avec le texte que nous avons médité sur le mystère du temple, sur le signe du temple et la présence de Dieu. Le canal d'Agnilou revient à cette affirmation du Christ « Je suis le temple ». S'il peut rebâtir le temple qu'est son corps, c'est-à-dire ressusciter son corps, c'est pour nous faire comprendre que dès l'origine, dès l'instant de sa conception dans le sein de la Vierge Marie, le corps de Jésus est le temple de Dieu lui-même. Eh bien, c'est dans cette perspective que prend sens la formule suivante, forgée par l'Esprit Saint et par Saint Luc, « L'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu ». Fils de Dieu, nous savons que l'expression n'est pas décisive pour nous parler de la divinité du Seigneur Jésus, mais nous pouvons bien penser qu'au moment où Saint Luc rédige, aidé par le Saint-Esprit d'une façon inimaginable, rédige son évangile, cette expression « Fils de Dieu » à ce moment-là signifie une affirmation de la divinité du Verbe. Il est Fils de Dieu dans un sens unique. C'est une affirmation nouvelle par rapport à l'expression précédente « Fils du Très-Haut » qu'on aurait pu comprendre comme un des noms du Messie. Mais ici, alors que se déroule l'enchaînement des phrases que l'archange est en train d'exprimer à l'adresse de la Vierge Marie, ici, dans le déroulement, dans la progression de la révélation, après l'affirmation de la présence de Dieu lui-même dans le Fils qui va naître de la Vierge Marie, ici, L'expression « fils de Dieu » ne peut plus signifier qu'une chose, à savoir que l'être saint qui naîtra de la Vierge Marie sera un enfant qui sera saint à cause de la présence de Dieu en lui, parce qu'il est réellement le Fils de Dieu. Nous essayons de balbutier le mystère. Comment arriver à dire que Jésus est Dieu? Vraiment Dieu, vraiment homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Notre prière du « Je crois en Dieu » est inépuisable. Et elle est renouvelée par le temps de l'Avent comme par la célébration de la Nativité et de l'Épiphanie. Il nous faut redire inlassablement notre foi dans le mystère de la personne de Jésus. La révélation à la Vierge Marie de ce qui constitue la fin de l'histoire, ce qui constitue le sommet et la fin de l'histoire du salut comme de l'histoire de toute la création, a donc trois moments qui se succèdent. Tout d'abord, est révélé à la Vierge Marie que la venue de Dieu est imminente. Ensuite, il lui est révélé que la création va être totalement renouvelée et que ce renouvellement de la création est opéré par la venue de Dieu et que très concrètement, cette venue, c'est la naissance de Jésus, le premier-né de l'humanité nouvelle. Quand aura lieu la venue de Dieu? Demandaient les prophètes, mais demandaient aussi les juifs pieux. Et ici, l'ange répond, la venue de Dieu va se produire avec la naissance du Seigneur Jésus. La venue visible de Dieu, puisque la venue invisible de Dieu, c'est à l'instant même de l'Annonciation, au moment de la conception de l'enfant dans le sein de la Vierge Marie. Et troisièmement, il est révélé à la Vierge Marie que la venue de Dieu sera réalisée dans cet enfant, en sorte que Jésus sera réellement Dieu présent dans une chair d'homme, le Fils de Dieu fait chair, et que la Vierge Marie est concernée d'une façon incomparable par tous ces événements. La révélation qui est faite à la Vierge Marie apparaît ici clairement. C'est quelque chose de totalement nouveau. Quand nous parlons de la nouveauté de l'Évangile, eh bien cette nouveauté, elle n'est pas avant tout dans le message, elle est avant tout dans l'événement. La nouveauté, c'est la personne même du Seigneur Jésus. Voilà, l'archange continue à faire des révélations à la Vierge Marie, qui les accueille bien sûr bien mieux que nous ne sommes capables d'accueillir la révélation de Dieu et les révélations divines, et il progresse. Et maintenant, la révélation va porter sur deux réalités. La première, c'est que cet enfant ne sera pas seulement le Messie descendant de David, mais le nouvel Adam, celui qui inaugure la nouvelle création. Et ainsi, la maternité virginale de la Vierge Marie, puisque c'est quand même l'élément le plus frappant de tout ce qui se produit à ce moment-là, la maternité qui apparaissait comme un scandale pour la raison, comme un scandale même pour la foi juive, prend toute sa signification. La maternité doit être virginale. Et saint Irénée, l'évêque de Lyon, dit admirablement que de même que le premier Adam avait été formé de la terre vierge, oui, à l'origine du premier Adam, il y a la virginité même de Dieu. C'est la tradition cartusienne, la grande spiritualité des chartreux, qui nous fait méditer sur la virginité de Dieu. Eh bien, Adam provient de la virginité de Dieu. Le deuxième Adam doit être formé à partir de la virginité. Tout s'éclaire, tout prend sa signification. La maternité virginale de la Vierge Marie est au service du mystère du nouvel Adam. Nous sommes au-delà de la raison. Nous ne piétinons pas la raison, nous lui permettons de grandir et de voir davantage. La seconde révélation, c'est que la venue de Dieu annoncée par les prophètes, finalement, n'est pas du tout séparée de la venue du Messie. Et c'est dans le Messie lui-même que se réalise la venue de Dieu. Ici, Jean Danielou nous résume l'essentiel de ce qu'il a voulu apporter à notre méditation. Ce qui ne pouvait pas être soupçonné par l'Ancien Testament est révélé à la Vierge Marie. Nous touchons un fait qui fait partie de la substance même de notre foi chrétienne. Il est de la substance de notre foi que le Verbe s'est fait chair. C'est le combat des trois premiers siècles de la vie de l'Église jusqu'au Concile de Nicée, puis ensuite le combat reprend avec les conciles œcuméniques suivants d'Éphèse, de Chalcédoine et de Constantinople pour arriver à dire que le Verbe s'est fait chair, et arriver à le prier, arriver à le croire, et arriver à le laisser nous surnaturaliser. Cela fait partie de notre confession de foi dans la prière du Je crois en Dieu. C'est la foi de saint Paul et de saint Jean et de saint Pierre. Et c'est cette foi que nous aussi nous devons transmettre. Et bien ceci a été révélé d'abord à la très sainte Vierge Marie. La foi chrétienne, la foi dans toute sa beauté et dans toute sa puissance est révélée à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie adhère, la Vierge Marie accueille, elle a la foi. Dieu lui révèle la foi et Dieu lui donne la grâce de la foi et, comme dirait saint Paul, d'une foi charismatique, d'une foi exceptionnelle, d'une foi surilluminée. Il fallait que la Vierge Marie entende l'annonce de la foi et adhère à cette annonce à cause du rôle éminent qu'elle allait jouer dans l'accomplissement de ce qui était annoncé. Elle est le sujet d'une élection unique et cette élection, c'est d'être celle en qui le Verbe de Dieu est venu s'unir à la nature humaine. Et voilà comment Dieu procède. Dieu révèle, Dieu explique, Dieu propose. En face, la créature répond. Et alors, la rédemption peut s'accomplir. L'union entre la Trinité et l'humanité peut avoir lieu. Et voilà pourquoi la liturgie catholique va nous demander, même si c'est d'une audace absolument et d'une témérité absolument folle, de nous identifier à la Vierge Marie. Dans notre méditation sur le récit de l'Annonciation, comme dans la manière dont saint Ignace de Loyola, en particulier dans les exercices spirituels, invite à méditer les évangiles, mais dans cette méditation, nous pouvons oser être la Vierge Marie. Et l'archange nous parle, l'archange nous dit la foi, l'archange nous dit le mystère, et nous, pour que le mystère s'accomplisse, qu'il s'accomplisse en nous et dans toute l'humanité, nous, comme la Vierge Marie, avec son aide, dans sa grâce, nous devons consentir. Nous devons être éclairés, devons être enseignés, être illuminés et ensuite accepter. Ensuite dire notre Amen. Bien sûr, dans la grâce de l'Esprit-Saint, dans dans la communion avec le Seigneur Jésus, mais dire et renouveler notre Amen. Et à ce moment-là, le Verbe de Dieu vient s'unir à notre nature humaine. Et nous sommes sauvés. Pas seulement sauvés, mais sanctifiés, divinisés, et un jour, avec l'aide de Dieu, glorifiés. Notre méditation du récit de l'Annonciation doit déboucher jusqu'à cette suprême audace de vouloir, d'une certaine manière, être la Vierge Marie en dialogue avec l'ange de Dieu. Le cardinal Danielou, essayant d'obéir de toutes ses forces à la liturgie catholique romaine, nous propose une vraie présence de Saint Joseph pendant le temps de l'Avent. Même si la très sainte Vierge Marie prend une telle place dans le temps de l'Avent qu'on pourrait se dire qu'il n'y a plus de place pour personne d'autre, ni pour Saint Jean-Baptiste, ni pour Isaïe, ni pour aucune figure de l'Ancien ou du Nouveau Testament, et bien même si nous pourrions penser cela d'une façon beaucoup trop rationnelle, logique, il faut la présence de Saint Joseph pour que le temps de l'Avent soit le temps de l'Avent. Et c'est grâce à Saint Matthieu que nous allons pouvoir laisser Saint Joseph en personne venir fortifier, venir éclairer notre temps de l'Avent. Le premier chapitre de Saint Matthieu contient un passage qui contient en même temps une ressemblance et un contraste très fort avec l'Annonciation à la Vierge Marie dans Saint Luc. C'est comme ça que bien souvent toute la Bible fonctionne, une ressemblance dans une dissemblance plus grande encore. Et si nous voulons méditer d'une façon fructueuse, il nous faut regarder la ressemblance et aussi accepter la dissemblance, le contraste, ce que Jean Danielou appelle le contraste. Alors le mot est très bien choisi parce qu'il ne s'agit pas d'opposition, de contradiction, de contrariété, il s'agit d'un contraste qui donne encore plus de lumière à la figure de la Vierge Marie. Méditer sur la personne, l'action, la foi de Saint Joseph nous permet de voir la Vierge Marie encore plus sainte, encore plus grande, encore plus proche de Dieu. Avec Saint Joseph, c'est encore une annonciation qui est faite par un ange de Dieu. Et comme chez Saint Luc, un des éléments de l'annonciation porte sur le nom de Jésus qui va être donné à l'enfant. Il y a là des parallèles qui nous conduisent à la foi dans le fait que les récits différents de Saint Luc et de Saint Matthieu reposent sur une réalité identique. Ils disent les choses de façon différente, mais l'objet sur lequel ils se basent pour écrire leur récit est identique. Et il est historique. Tout cela s'est vraiment produit, mais ensuite, éclairé par l'Esprit-Saint, chacun a le droit de raconter, de déployer avec son génie propre. Une histoire vraie, commune, et ensuite des contrastes qui sont frappants pour montrer comment l'histoire n'est pas la même pour la Vierge Marie et pour Saint Joseph. Chez Saint Matthieu, oui, l'Annonciation est adressée à Saint Joseph. Et elle a lieu, et c'est très important, après la conception virginale du Seigneur Jésus. Il n'y a donc pas le même enjeu, qu'on pourrait dire dramatique, la Vierge Marie va-t-elle consentir, oui ou non? Le salut de toute la création, comme le dit si bien Saint Bernard, est suspendu aux lèvres de la Vierge Marie. plus qu'à ses lèvres, à son âme, à son cœur, à sa liberté et à sa volonté. Si elle dit oui, le Verbe se fait chair et toute la création est renouvelée et sauvée par le nouvel Adam. Nous sommes après. D'une certaine manière, déjà, comme lorsque le Seigneur meurt sur la croix, tout est accompli. Et Saint Joseph va recevoir la grâce d'une annonciation pour participer à l'accomplissement. Mais tout est déjà accompli. Nous sommes à nouveau dans cette question de la personne de Jésus comme fils de David, comme appartenant à la lignée de David. Et ce qui est un peu une théorie, la théorie du cardinal Jean Danielou, c'est que l'annonciation à Joseph est en lien avec ce mystère de Jésus, fils de David. Et alors, sa proposition, c'est que le récit de l'annonciation à Saint Joseph est en lien non seulement avec, mais essentiellement, voire exclusivement avec cette question. Un grand nombre de lecteurs de l'Évangile et de lecteurs attentifs et scientifiques et sérieux de l'Évangile selon saint Matthieu pensent que ce qui est dit à saint Joseph, c'est que c'est par la puissance de l'Esprit-Saint que Marie a conçu Jésus. Et que l'Évangile serait là pour nous raconter comment l'annonciation de l'ange met un terme aux inquiétudes et aux incertitudes qui sont dans le cœur de saint Joseph. Mais ce serait mettre dans l'Évangile des problèmes psychologiques, des problèmes affectifs, des problèmes mentaux qui sont insolubles et qui ne sont pas dans l'esprit de l'Évangile. L'Évangile ne cherche pas à psychanalyser saint Joseph. L'Évangile cherche à nous sauver, à nous libérer du péché et à nous donner la vie éternelle. On peut répondre à cette lecture en disant que c'est aussi absurde de penser que saint Joseph croit que la Vierge Marie est coupable qu'il est absurde de penser que saint Joseph n'aurait jamais pu penser que la Vierge Marie était coupable. Les deux sont absurdes. Et entrer dans cette discussion, c'est prendre le risque de passer à côté de ce que l'Évangile veut nous dire. Et d'être en train, si vous voulez, de refaire l'histoire. Alors la réponse de Jean Danielou, c'est de dire « L'annonce faite à saint Joseph n'a pas pour objet la conception virginale de la Vierge Marie. » Il part de l'hypothèse que saint Joseph sait déjà ce qu'il en est, qu'il est déjà informé. Il n'a donc pas un trouble psychologique en lui pour savoir que faire avec la Vierge Marie. Mais l'annonciation à saint Joseph a pour objet de lui faire connaître à lui quelle va être sa relation avec le Seigneur Jésus qui va naître. Et s'il doit assumer la paternité légale à l'égard du Seigneur Jésus pour lui donner sa filiation davidique. Est-ce que c'est grâce à saint Joseph que le Seigneur Jésus va pouvoir être appelé fils de David? Nous connaissons la réponse, mais ce rôle de saint Joseph va être source de beaucoup de lumière pour chacun d'entre nous, particulièrement pendant le temps de l'Avent, si nous acceptons ce chemin de lecture de l'Évangile.
Chers auditeurs, c'était notre émission Dieu tellement vivant avec le Père Nicolas Sautreau. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.